Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. I bet you get 30, 30, I bet you get 30, I bet you get 20, 20, 20, I bet you get 20, 20, I bet you get 15, 15, 15, 15, just $15 a month, sold.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Quelles sont les news du cloud et du DevOps en ce mois de juillet 2023? Et c'est chaud, on croule sous l'actu tellement il y en avait, j'ai dû en écarter certaines. Aujourd'hui, on va parler de Red Hat qui sème le trouble, un nouveau rachat de Docker, de Proxmox version 8 et une preview de Ansible Lightspeed. Tout ça, on va le voir dans cet épisode de podcast.
Bienvenue sur Radio DevOps, la balado-diffusion des compagnons du DevOps. Si c'est la première fois que tu nous écoutes, abonne-toi pour ne pas rater les futurs épisodes. C'est parti!
Bienvenue à toi, cher compagnon, dans ce nouvel épisode de Actu DevOps, ton émission de veille cloud DevOps mensuelle. Comme d'habitude, reste bien jusqu'à la fin pour découvrir notre petite sélection d'outils, et tu vas voir, cette fois-ci, on va revenir aux bases. Avec moi, ce soir, pour parler Actu, j'ai Nicolas. Bonsoir, Nicolas.
Salut tout le monde.
Et enfin, non des moindres, René. Bonsoir, René.
Bonsoir à toutes et tous.
Et c'est pas parce que nous sommes trois qu'on va traiter moins d'actu. Tu vas le voir justement dans cet épisode. Alors, on va commencer par la traditionnelle, le traditionnel courrier des auditrices et auditeurs. Et j'aimerais te lire ce soir un message de Raymond 2683. Raymond nous a laissé un message sur YouTube. Sur le dernier Actu DevOps, qui est sorti il y a une semaine au moment où on enregistre cet épisode, mais au moment où tu le regardes, il y a un mois. Alors, il nous dit « Merci pour l'info sur Paddock Tech Radar, qui permet avec les rapports Gartner et de la CNCF de voir les outils qui pourraient être testés et ceux sur lesquels on pourrait mieux maîtriser. » Et il met 2 pouces en l'air. Voilà. Alors, Raymond, je vais te répondre sur YouTube, mais voilà ma réponse en live, en live différé. C'est avec plaisir qu'on fait ce genre de choses. Et puis, c'est vrai que dans le dernier Actu DevOps, on n'a pas vraiment parlé des autres rapports que sont les rapports Gartner, la carte CNCF ou tout un tas d'autres rapports. Parce qu'en fait, il y a beaucoup de ressources de ce type. Et je voulais parler du Tech Radar, déjà parce que c'était nouveau, que c'était aussi une ressource en français, et même si je sais qu'on est tous censés lire l'anglais, j'avoue que je fais partie de ceux qui pensent qu'on manque vraiment de contenu français. Je sais pas ce que vous en pensez tous les deux, mais je trouve qu'il n'y a pas assez de création française autour de la tech.
Oui, mais malheureusement, on est aussi dans un domaine où l'anglais est quand même extrêmement important, et si on n'est pas suffisamment fluent, je pense que pour pas mal de trucs, on doit bien souffrir.
Ouais, j'imagine. Tout à fait, je pense que c'est fait vraiment partie des indispensables. Et par exemple, moi c'est ce qui me sert le plus des études en fait, de ce qui... Voilà. Il y a plein de choses qu'on a appris et dont on sert très très peu. Mais l'anglais, par contre, c'est vraiment fondamental.
Ouais, moi, je pense que c'est bien d'avoir l'anglais, mais comme je le dis toujours, quand on apprend des technos qui sont déjà complexes dans une langue qui n'est pas la nôtre, qui n'est pas notre langue natale, ça rajoute une surcouche de complexité. C'est pour ça que je milite pour avoir du contenu francophone. Pour qu'on puisse comprendre dans notre langue natale les concepts parfois avancés. Je pense notamment à des concepts comme Kubernetes. Qu'est-ce que j'ai pu en chier avec la documentation de Kubernetes à l'époque où je m'y suis mis.
Ouais, non, mais tout et à c'est... fait. Après avoir du contenu français, c'est sûr que c'est super aussi. Hein. Et je suis d'accord avec toi que ça manque un peu.
Et c'est pour ça qu'une des excellentes contributions open source, c'est de traduire les documentations des projets que vous pouvez avoir. Moi, pendant quelques années, j'ai traduit la newsletter Gentoo. Donc ça permettait... alors en plus, ça m'a fait progresser en anglais, parce que moi, j'étais pas très très bon à l'école là-dessus. Et c'est entre guillemets à cause de la tech que j'ai progressé en anglais. Et le fait de traduire toutes les semaines des news, ça m'a obligé à avoir un meilleur niveau en anglais. accessoirement un meilleur niveau en français aussi, puisque on écrit en français. Et si vous maîtrisez une techno, essayez de regarder, voir si vous pouvez pas donner des coups de main sur de la traduction. Et si vous avez du mal à commencer pour faire de la traduction, il y a Julien, dont j'ai perdu le nom, donc désolé Julien, mais qui anime des ateliers de traduction de Python. Et comme il dit régulièrement, c'est même si vous maîtrisez la doc en anglais, regardez la doc en français pour trouver les coquilles et les corriger.
Ouais, c'est ça. On peut en effet traduire des articles ou la documentation. Je sais que nous, on traduit régulièrement des articles anglophones en langue française et on se permet de le faire parce qu'il y a beaucoup d'articles qui sont en licence libre. Et donc, on peut le faire parce qu'on a le droit de le faire. Et du coup, ils se retrouvent en français en licence libre.
Et les auteurs seront extrêmement contents que ça soit traduit dans d'autres langages. Et donc, Julien Pallard vous aidera à faire de la traduction de Python.
Bon, tu l'auras compris si tu nous écoutes. Tu peux, toi aussi, nous laisser un message. Alors, tu peux le faire sur Apple Podcast. On n'en a toujours pas, j'en ai pas trouvé. Sur Podcast Addict, on en a quelques-uns. Sur YouTube, on commence à en avoir beaucoup. Mais aussi sur le forum, puisque les compagnons du DevOps, il y a aussi un forum. Alors, on va passer dans le cœur du sujet. Et c'est moi qui vais commencer. Je vais vous parler du drama Red Hat. Car oui, c'est un nouveau drama qui secoue la sphère Linux en ce moment. Alors, il y a plus de 2 ans, Red Hat a remplacé CentOS par CentOS Stream. Et CentOS Stream, c'est en fait la distribution maintenant upstream de Red Hat Enterprise Linux, ou RHEL, ou encore Red Hat Linux. Alors, ça veut dire que les développements se font sur CentOS Stream, puis quand ils sont stables, ils basculent sur Red Hat Linux. Alors que ce feu CentOS était une distribution clone complète et libre de Red Hat Linux. Alors j'avais d'ailleurs fait une émission de trouvailles où je parlais déjà de ce Big Bang. Si tu n'as pas vu la vidéo, elle est en description de ce podcast, et si tu es sur YouTube, une fiche d'information va apparaître en haut à droite de ton écran. Depuis, on a vu apparaître de nombreuses distributions qui ont voulu lui succéder, comme Rocky et Alma Linux, pour ne citer qu'elles. Red Hat souhaite aujourd'hui se concentrer sur CentOS Stream, comme, justement, pilier de l'innovation Linux d'entreprise. CentOS Stream sera désormais le seul référentiel public du code source lié à Red Hat Linux. Oui, oui, tu as bien entendu. Red Hat Enterprise Linux ferme son code. Néanmoins, pour les clients et partenaires Red Hat Linux, le code source restera disponible via le portail client. Donc il faut savoir qu'avant, Red Hat diffusait les sources publiques sur git.centos.org, et lorsque le projet CentOS est devenu CentOS Stream, Red Hat a maintenu les référentiels, même si CentOS Linux n'était plus construit à partir de Red Hat Linux. Bon alors, c'est quoi les conséquences aujourd'hui ? Les développeurs d'Alma Linux ont été les premiers à réagir et ils disent, je cite, « Étant donné que tous les clones Red Hat Linux s'appuient sur les sources publiées, cette situation perturbe une fois de plus l'ensemble de l'écosystème Red Hat. Ils estiment en fait que trouver une solution pour poursuivre le développement de la distribution Linux tel qu'il était envisagé est essentiel. Sachant que partir de CentOS Stream, c'est pas vraiment une option parce que en fait, ça tient à la nature même de cette distribution puisque CentOS Stream, comme je viens de l'expliquer, c'est une distribution R&D et donc pas assez stable pour les entreprises. La Rocky Enterprise Software Foundation, derrière la distribution Rocky Linux, publie un appel à Red Hat pour garder sa solution libre. Puis, suite à ça, la communauté s'enflamme, la confiance se perd petit à petit. Jeff Gerling, qui est très connu de la communauté en cible, ne mâche pas ses mots. « Cher Red Hat, avez-vous perdu la tête ? En ce moment, je suis en train de décider si je dois continuer à soutenir uniquement Fedora ou simplement abandonner tout soutien à Red Hat Linux et aux distributions similaires pour mes projets open source. » Alors, c'est vrai que pour toute personne qui développe des rôles en cible, mais pas que, hein, je pense à toi Nicolas, il sera difficile de tester son code car la distribution Red Hat Linux sera maintenant payante ou au moins un peu compliquée à obtenir, on va le voir après. Alors, pourquoi ce changement ? Quelques jours plus tard, un communiqué de Mike McGarth, j'espère que je prononce bien son nom, le vice-président des plateformes Core de chez Red Hat clarifie les choses. Il insiste tout d'abord sur le fait qu'il faut rémunérer les personnes qui développent pour leur distribution. qu'elles soient open source, libres ou sous licence. Il rappelle aussi que Red Hat propose un abonnement gratuit pour les devs et les organisations open source. Il insiste enfin sur le fait que Red Hat fait systématiquement un rétroportage des bugs et du code de Red Hat Linux vers la distribution libre upstream, CentOS Stream. Alors, quel que soit ton avis à toi sur cette histoire, je rappelle qu'il est important, en effet, de soutenir le développement libre financièrement et pas uniquement en termes de contribution. Alors, René, est-ce que toi, tu veux t'exprimer sur ce sujet, en sachant que je précise à nos auditeurs et auditrices que tu travailles pour Red Hat, mais pour le projet OpenStack?
Oui, bah après, je peux m'exprimer sur le sujet en mon nom propre, donc ça engage aucunement Red Hat. Que dire, j'avoue que j'ai un peu du mal à me positionner parce que je comprends d'un côté ce que la direction cherche à faire. Ça ressemble beaucoup un petit peu à ce qu'on a vu aussi dans les d'autres affaires type Elastic et AWS, où entre guillemets certains acteurs contribuent pas énormément entre guillemets et profitent beaucoup de ce qui est fait en amont. Donc je pense qu'il y a une partie des volontés, c'était d'arrêter ça. Je pense pas forcément que ce soit Alma et Rocky qui étaient spécialement visés, c'est plus un autre acteur plus gros que je nommerai pas. Après, ce que j'en pense personnellement, je trouve ça un petit peu dommage parce que surtout dans la manière dont c'est amené, je pense qu'ils auraient pu essayer de plus communiquer justement sur le travail que ça engendre, le travail qui est fait. Et je pense que ça c'est très peu, enfin ils visibilisent pas très bien cette partie-là. Je pense qu'il y aurait à communiquer sur le sujet pour que les gens se rendent plus compte du travail qui est fait et qui est quand même assez considérable. Red Hat, ça reste un des très très gros contributeurs à plein de projets upstream. Et pour la distribution, il y a pas mal de boulot qui est fait de validation avec les constructeurs. Il y a un certain nombre de choses. Je pense que peu de gens connaissent et qui serait bon de rappeler. Mais après, voilà, je trouve que le mouvement, il est un peu brutal. Je pense que voilà, ils auraient dû communiquer, expliquer le problème et pas tout de suite restreindre l'accès à ces sources-là. Je trouve ça dommage. En plus, je pense que ça nuit globalement. Je trouve que, je suis pas persuadé que le move est forcément très bon dans le sens où les gens qui, de toute façon, cherchaient à utiliser de la CentOS ne souhaitaient pas forcément payer pour une RHEL. Donc, je suis pas sûr que c'est des clients qu'on va forcément récupérer. Quelque part, en termes d'image de marque, je pense que c'est pas super, vu un petit peu la, entre guillemets, shitstorm qu'il y a sur les réseaux. C'est pas super. Voilà, un petit peu mon sentiment, mais... Voilà, c'est un peu. Je vais laisser un peu la main à Nicolas pour s'il veut s'exprimer.
Oui, moi, mon point de vue. Alors déjà, je ne suis pas utilisateur de Red Hat. Je l'ai utilisé il y a très longtemps, mais maintenant, je fais plutôt de la Debian et de l'Ubuntu. Après, je reste conscient que Red Hat est un acteur énorme du marché. Après, ils sont réputés pour être un petit peu chers aussi, et c'est peut-être ce qu'on peut regretter, c'est qu'il n'y ait pas des pricing un petit peu plus adaptés à des entreprises plus modestes, mais c'est toujours le problème dans le business model de l'open source, c'est qu'en général, on tape sur les gros pour qu'ils payent, mais les gros, ils commencent à en avoir un petit peu marre d'avoir des coûts de licence énormes. Et finalement, si ça fonctionne autrement, avec un équivalent un peu plus open source et surtout beaucoup plus gratuit, c'est des parts de marché qui vont être perdues par Red Hat et tous les autres, hein, puisque tous les acteurs sont concernés. Et finalement, c'est comment est-ce qu'on peut continuer à rémunérer ces entreprises qui font de l'open source? De ce côté-là, je me sens très concerné parce que je suis dans une entreprise qui développe un produit open source et régulièrement, on se pose la question de comment traiter nos utilisateurs correctement tout en gardant un business économique viable. Globalement, nous, on fait payer le la gestion de notre produit sur nos infrastructures ou sur les infrastructures des clients. Mais des fois, on a des clients qui, enfin, on a des gens qui viennent nous voir pour la partie support et qui nous posent des questions. Et malheureusement, on est obligé de leur expliquer que ça, c'est une question à laquelle on ne répondra pas parce que ça fait partie des choses où on fait du support dessus. Par exemple, la question du jour, c'est j'arrive pas à configurer la partie mail. En fait, ça fait partie des choses qui sont compliquées à configurer, les serveurs de mail. Faire des tests là-dessus, c'est toujours un petit peu galère. Et si on ne maîtrise pas cette partie-là, faut payer une entreprise pour gérer le truc. Et en fait, c'est plein de petits trucs qui vont se mettre bout à bout où finalement, il faut trouver le juste milieu entre je fais payer un petit peu les tout petits et je fais payer beaucoup plus les beaucoup plus gros. Et pour que ça soit équitable pour tout le monde. Enfin bon, bref, je me suis peut-être perdu dans mes explications, mais c'est encore une fois, c'est l'open source, c'est contribuer quand vous le pouvez de manière technique. Et technique, ça peut être de la documentation ou juste la promotion des produits. Mais quand vous pouvez payer une licence ou un support, essayez de le payer parce que on le voit, le move qu'il y a sur pas mal d'entreprises récemment. On a eu un drama avec l'histoire qu'on a eue sur Docker. On l'avait déjà traité dans un autre épisode de Radio DevOps. Finalement, ils sont un petit peu revenus en arrière, mais on voit bien qu'aujourd'hui, beaucoup d'entreprises ont du mal à valider un vrai business model. Et en plus, c'est des entreprises qui sont potentiellement cotées en bourse et ce marché-là, ça fait, ils n'ont pas beaucoup de pitié. Hein. Il faut qu'il y ait du rendement, donc il faut faire payer les utilisateurs. Il faut continuer à grossir. Et malheureusement, c'est un système capitalistique qui donne pas trop part à l'open source. Où en fait, c'est ceux qui font du business comprennent pas que l'open source, c'est aussi des utilisateurs qui payent pas et qui utilisent le produit gratuitement.
Certains diraient que l'open source est la version capitaliste des logiciels libres, et je reprends la parole. En fait, tu fais bien de rappeler certaines choses, parce que en anglais, c'est les free software. Free qui veut aussi dire gratuit en anglais, alors que chez nous, c'est les logiciels libres ou open source, qui du coup ne sont pas gratuits. Ça veut pas dire gratuit, et c'est bien de rappeler qu'un logiciel libre, même si le code est accessible, ça veut pas dire que c'est gratuit, parce que on a besoin de compétences pour l'installer, le mettre en place, l'exploiter. Et c'est dans ces moments-là où on fait appel à des gens comme nous, puisque nous, on infogère aussi des solutions libres. Alors, nous, on les dit pas, mais comme vous, on vend notre prestation et le service. Moi, ce que je constate, c'est qu'en fait, on voit une lente évolution de Red Hat, je trouve, depuis le rachat d'IBM en 2018. Et je pense que ce move, il est aussi lié au fait que ça a coûté cher à IBM, parce que rappelons-le, je crois que c'était 35 ou 38 milliards, c'était 34 milliards de dollars. Donc IBM cherche peut-être à demander à Red Hat de rentabiliser tout ça, même outre le fait qu'on doit payer les développeurs, hein, c'est sûr, hein, mais jusqu'à présent Red Hat n'avait pas de problème à payer les gens. Ce que t'as dit aussi, moi, ça me fait penser à mon propre vécu. Alors moi, ce que j'ai remarqué dans mon vécu, c'est que dans les grands groupes, on trouverait plutôt du Red Hat Linux sur les environnements critiques avec licence, et on trouvait du CentOS justement pour avoir une uniformité de distribution Linux chez ces gens-là. Alors je sais pas ce qu'ils ont maintenant, parce que j'évolue plus dans les grands groupes comme ça. Par contre, j'ai vu que dans les petites entreprises, les entreprises modestes ou les startups, c'était plutôt du Debian Ubuntu, comme tu dis, comme chez nous. Puis nous, on préfère la philosophie Debian Ubuntu. Puis, de toute façon, de manière générale, je préfère moi la distribution Debian Ubuntu que la distribution Red Hat Linux. J'ai jamais pu me faire au gestionnaire de paquets. Voilà ce que je pouvais dire moi là-dessus. Ça te fait rire, Nicolas?
Oui, je connais des gens où le système du paquet, c'est l'extrême inverse. Mais bon, c'est là où vous pouvez voir aussi la grosse différence entre Red Hat qui est appuyé sur une entreprise commerciale qui fait de l'open source, et Debian qui est une fondation. Et finalement, la partie commerciale, c'est Ubuntu qui s'appuie sur l'infrastructure qui a été mise en place par Debian à l'origine. Et en fait, même si Ubuntu fait le même move pour passer sur du modèle totalement payant, vous aurez toujours Debian. Mais c'est là où c'est important aussi, c'est Debian est totalement gratuit et totalement open source, libre, gratuit dans tous les sens du terme. Mais si vous délaissez cette distribution et que vous n'aidez pas un petit peu à contribuer aussi, elle va disparaître. Et je pense que vous n'avez pas envie que Debian disparaisse parce que ça va impliquer beaucoup de choses.
Ouais, et Debian, c'est quand même une source à tout un tas de distributions. Mais on a, je vais mettre dans les notes de l'épisode le fameux schéma en fait, où on voit les dépendances de toutes les distributions vers toutes les distributions, parce que c'est hyper important de l'avoir en tête. Je trouve que l'équilibre Debian-Ubuntu a été trouvé. Et j'ai l'impression qu'il est gagnant-gagnant par rapport à Red Hat Linux, CentOS Stream. En plus, je vous avoue que je me suis pas vraiment penché là-dessus, mais entre CentOS Stream et Fedora, j'avoue que c'est un peu flou dans ma tête. Pourtant, je l'ai traité deux fois et il faudrait que je demande à mon collègue de chez Lidra, qui lui est très Fedora, quel est le lien entre les deux.
Bah, je peux un petit peu te dire.
Vas-y, dis-nous.
En fait, Fedora, c'est presque, alors c'est distribution communautaire qui va servir de base en principe à la CentOS Stream. D'accord. Donc c'est vraiment le pure lab, mais là ça évolue un petit peu de manière communautaire, etc. Pas mal de gens côté Red Hat travaillent aussi sur Fedora. Après ça, à un moment il y a une espèce de plus ou moins freeze. Ça part quand même de Fedora, ça arrive dans Stream, et dans Stream là c'est vraiment ce qui va être la pré-version de Red Hat Enterprise Linux. Et là, oui, c'est un peu de la bêta, les paquets sont en avance, donc là il y a du retravail, il y a des fixes qui vont être faits, etc. sur un périmètre un peu plus figé. Et une fois que c'est prêt, ça part en Red Hat Enterprise Linux avec le support commercial et compagnie. Voilà. Et voilà, ce qui a vraiment changé, c'est qu'autrefois, les CentOS, donc pas les CentOS Stream, les CentOS classiques, elles étaient vraiment reconstruites à partir de Red Hat Enterprise Linux sans la trademark et à partir des sources. Et ouais, le CentOS Stream a cassé un petit peu ce mécanisme-là, parce que voilà, là, c'est plus une version un peu bêta de ce que va être la Red Hat Enterprise Linux.
En tout cas, merci René pour ces précisions. Je te mets à toi, cher auditeur et auditrice, plein de liens pour suivre ça. Et puisque on aime bien Linux dans Actu DevOps, puisque Linux est la base de la plupart de nos environnements cloud, sauf pour ceux qui font du Windows, mais malheur à eux. René va nous parler de Linux, justement. Il va continuer sur le sujet en parlant d'autre chose.
Ouais, une petite nouvelle un peu plus légère que j'ai trouvé très sympa. C'est une nouvelle qui est apparue dans la Linux Weekly News du 12 avril. Donc, c'est pas tout frais, mais ce qui va être difficile, c'est que je veux pas spoiler un petit peu le contenu de cette news, donc je vais encourager les gens à aller voir le lien qu'on mettra sur les notes de l'épisode. Mais en fait, c'est un collègue ami de Linus qui s'appelle Lars Wirsenius, m'excuse si j'écorche son nom, qui explique un petit peu comment tout ça a démarré, comment Linux a démarré. Et donc voilà, il a côtoyé Linus Torvald quand il était vraiment au début du projet. Et il y a quelques anecdotes assez rigolotes. Et voilà, je veux pas te spoiler le truc, donc je veux pas dire la fin, mais voilà, il y a un truc assez rigolo de savoir quel est le point de démarrage de Linux. Et c'est dévoilé dans cet article. Et voilà, je vais dire, pour pas spoiler, que parfois le démarrage d'un projet majeur commun comme celui-là, c'est parti vraiment d'un truc un peu tout bête, un peu d'une expérimentation, Et puis bah, ça a grossi de manière assez impressionnante. Voilà, je ne sais pas si vous avez lu l'article et ce que vous en avez pensé, mais voilà, je vous laisse vous exprimer.
Eh ben non, j'aurais su que tu ne nous parlerais pas plus que ça de l'article, je l'aurais lu pour avoir des choses à dire, mais du coup, je vais juste parler de mon expérience de Linux, parce que moi, ça fait longtemps que j'utilise Linux, puisque je crois que dès mon adolescence, ça fait plus de 30 ans du coup, j'ai eu un Linux entre les mains, puisque j'ai commencé à installer Linux en version Slackware avec une ou deux disquettes sur les 30 ou 40, je ne sais plus, qui avaient foiré. Donc mon grand désarroi, c'était mon premier rapport avec Linux. Et après, en cours, on avait des Unix, en fait. Et j'avoue que j'étais bien content d'avoir des Linux chez moi, sur mon PC, pour justement pouvoir travailler. Alors quand je dis en cours, je fais un BTS. J'étais bien content d'avoir des Linux pour travailler et compiler en C, parce que sinon, si j'avais eu les Windows comme mes potes, et ben je pense que j'aurais pas. J'avais un double boot à l'époque parce que je jouais, mais j'avais mon Linux aussi pour faire des expériences. Voilà ma petite expérimentation de Linux dans les années 90, plutôt vers la fin des années 90. Et toi, Nicolas, alors?
Je crois qu'on a eu à peu près la même expérience, mais moi, le lycée où j'étais, on n'avait pas d'Unix, donc c'était que du Linux et. Comme j'en faisais déjà depuis un petit moment, bah, ça m'a permis d'être un petit peu plus à l'aise dans ces cours-là. Et en fait, quand j'ai commencé à travailler en 2001 sur du Solaris, alors j'ai trouvé ça un petit peu archaïque, mais j'étais pas totalement perdu. C'est ce qui m'a permis d'apprendre VI au passage, mais comme je faisais déjà du 7, du Hawk, bon, bah, ça m'a permis de me perfectionner. Donc, ce qui me permet aujourd'hui d'être extrêmement à l'aise dans des environnements où il y a des versions un petit peu trop anciennes de tous ces outils-là. Mais oui, c'est l'histoire de Linux, elle est assez incroyable. Et une fois que vous aurez lu l'article, comme je m'empresserai de le faire, donc a priori, je l'aurai lu avant vous, mais je vous encourage aussi à regarder toute l'histoire qu'il y a derrière GNU. C'est Richard Stallman. On peut apprécier ou pas le personnage, mais en tout cas, ce qu'il a fait, c'est assez incroyable. Et tout ça, c'est parti pour une histoire d'imprimante. Donc, je trouve ça assez génial aussi.
Bah là, ce qui est aussi rigolo, c'est qu'en fait, quelque part, Linux, c'est aussi le besoin que tu as eu, Christophe, en fait. C'est Linus qui voulait pouvoir avoir un Unix perso qui puisse utiliser sur son ordinateur personnel. Et puis ben voilà, il s'est décidé à le coder lui-même. Donc c'est assez rigolo. Et puis pour rebondir sur ce que tu disais, il y a l'histoire GNU, mais moi j'encourage aussi les gens à aller voir l'histoire BSD, parce qu'il y a aussi des sacrées pépites, notamment ben comment la stack TCP elle s'est développée, etc. Donc ouais c'est bien de connaître un petit, enfin je trouve que c'est bien de connaître un petit peu l'histoire et de savoir d'où tous ces produits peuvent venir et comment ça s'est façonné.
Ouais, alors on peut préciser parce que je sais qu'il y a des jeunes qui nous suivent qui ont peut-être pas forcément l'histoire, mais à l'époque, donc les Unix qui sont des systèmes auxquels ressemble beaucoup Linux, d'où le nom, etc., sont des systèmes propriétaires sous licence qui coûtaient assez cher et qui tournaient sur des stations de travail qui elles-mêmes n'étaient pas accessibles. Déjà, avoir un PC, c'était cher. C'est bien ça qu'il faut se dire. Une station de travail Unix, c'était très, très cher. Et seules les écoles ou les entreprises pouvaient se les payer. Et donc, avoir Linux qui arrive, c'était vraiment, bah, waouh. Et moi, je fais partie de ceux qui pensent que si on a Internet à ce niveau aujourd'hui, c'est uniquement grâce à Linux, parce que si on n'avait pas eu Linux, eh ben on n'aurait pas l'Internet qu'on a aujourd'hui, ce serait un autre Internet complètement différent. Je sais que tu n'es pas d'accord, Nicolas, mais je pense que le fait d'avoir un système libre et ouvert et disponible gratuitement a accéléré très fortement les choses.
Bon, on aurait des serveurs web sous Windows 95, c'est tout.
Ouais, moi, je mettrais juste un petit bémol, c'est pas que Linux, je pense, c'est vraiment toute la famille BSD et Linux. Enfin, c'est les deux, en fait, parce qu'il y a... Voilà, je pense qu'il y a Linux qui a amené beaucoup de choses, mais aussi le côté BSD qui a amené plein de trucs.
Je pense que ce que ça a surtout apporté, c'est la démocratisation du côté administration-système. Pour travailler dans une entreprise, pour être DevOps aujourd'hui, c'est n'importe qui peut le faire. À l'époque, il fallait forcément passer par l'université pour avoir accès à des machines, Solaris, machin, etc. Aujourd'hui, n'importe qui peut prendre n'importe quel matériel, installer un BSD, un GNU Linux ou n'importe quoi, et il va trouver suffisamment de ressources en ligne. Et ça, par contre, je pense que c'est plus le côté éducation que le Internet en tant que tel. Après, ça dépend de quelle partie d'Internet tu parles. Moi, quand tu me parles Internet grand public, je pense aux réseaux sociaux et au côté un petit peu abrutisation. Donc, du coup, je suis pas sûr que ça vienne absolument de cette partie-là et que ça soit totalement une bonne chose.
Moi, j'ai une vision ops. Je parle des infrastructures qui soutiennent Internet. Tu vois, aujourd'hui, on aura beau dire ce qu'on veut, mais Internet est soutenu en très, très grande majorité par Linux. Et la plupart des applications tournent sous Linux. On aura beau dire ce qu'on veut, c'est un fait.
Et quand j'ai commencé à travailler en 2001, j'étais le bidouilleur qui faisait du Linux, donc personne ne me prenait au sérieux. Et quelques années après, j'ai pu prendre ma revanche parce que maintenant, c'est ceux qui font du Solaris, c'est des dinosaures qui sont en train de disparaître.
Ouais. Vas-y, René.
Oui, je voudrais juste ajouter deux choses. La première chose, c'est que la news, je la tiens quand même de quelqu'un qui l'a posté sur le forum. Donc, Dominique Dumont, pour ne pas le nommer, que je salue, parce qu'on se connaît. Et voilà. Et un petit rappel pour ceux qui veulent connaître un petit peu ce qui s'est passé dans les BSD, il y a Emile. Donc Emile Etor qui est un peu un vieux de la vieille de tout ce qui est BSD. Fait de dire ça, je ne sais pas s'il va apprécier, mais bon. Il a une chaîne YouTube. Je pense qu'on mettra le lien et il a fait deux épisodes, je crois, deux ou trois épisodes, je me souviens plus, sur justement un petit peu l'historique de tout ce qui est BSD et compagnie. Et il a un certain talent pour raconter ces histoires-là et je vous encourage à écouter, c'est vraiment sympa.
Merci René. Du coup, si tu aimes ce podcast et que tu apprécies de nous écouter tous les mois à déblatérer de plein de choses et que tu veux t'assurer qu'on continue à parler longtemps, longtemps et longtemps, le meilleur moyen de nous soutenir, c'est grâce à un don. Tu trouveras le lien pour nous soutenir sur le site. Soit le site compagnon-devops.fr, il y a un lien vers la page de soutenir, soit tu peux directement taper soutenir.compagnon-devops.fr et là tu trouveras les plateformes de dons. Pour l'instant, il n'y en a qu'une, mais un jour peut-être qu'il y en aura d'autres, je ne sais pas. Alors, Nicolas, tu vas nous parler d'une nouvelle news, tu vas nous parler de la nouvelle version de Proxmox, et est-ce que tu peux, s'il te plaît, dire un petit peu ce que c'est Proxmox avant d'entamer ta news, pour les gens qui ne connaîtraient pas?
Ouais. Alors, Proxmox, c'est un hyperviseur un petit peu à la mode. Donc, les hyperviseurs, c'est ce qui vont vous permettre de faire tourner toutes vos machines virtuelles quand vous récupérez un énorme serveur dédié et que vous voulez faire tourner 50 systèmes dessus. On parlait de BSD tout à l'heure. C'est avec le même Linux, on peut faire tourner des BSD dessus. Il a été très à la mode pendant un moment parce que OVH le fournissait préinstallé sur les machines et son énorme avantage est qu'il permet de gérer très facilement plusieurs types de virtualisation. Donc à l'époque c'était une ancienne techno de containerisation dont j'ai oublié le nom, qui a été remplacée par l'XC. Vous avez du QMU pour faire du KVM, donc et deux technologies de virtualisation qui sont un petit peu différentes, qui permettent d'encapsuler et de séparer plus ou moins les différentes ressources de vos systèmes. Donc, en gros, LXC va vous permettre de partager le même noyau et du coup économiser un petit peu de RAM, là où QEMU, KVM vont vous permettre d'isoler totalement vos systèmes d'exploitation. C'est pas juste un chroot dans un coin. Et Proxmox, ce qu'il apportait, c'était à la fois l'intégration de toutes ces technos de virtualisation, mais aussi une API et une GUI qui permettent de gérer ces VM. Donc, si on aime les clicodromes, on a une jolie interface dans laquelle on peut aller cliquer pour créer, supprimer, modifier les VM. Et si on aime les API, eh ben, on a une API qui permet de faire toutes ces manipulations-là en automatique. Je crois même que maintenant, il y a un provider Terraform, donc c'est encore plus cool. C'est pas forcément l'hyperviseur qui fait totalement consensus parmi nos confrères DevOps, mais je trouve que c'est une bonne alternative quand on n'a pas trop envie de se prendre la tête. Après, ceux qui veulent de la perf, ils vont utiliser d'autres choses. Bref, tout ça pour dire que Proxmox est aussi basé sur Debian, donc comme quoi encore un des trucs qui est basé sur Debian. Ils sont donc dans la version 8, ils ont fait plusieurs mises à jour, donc ils sont passés à Debian 12, ils sont passés à QEMU en version 8.0.2, en version LXC 5.0.2, en ZFS 2.1.12 et ils intègrent Ceph dans sa version Quincy en 17.2.6. Donc ça fait beaucoup de versions. Je vous avoue que moi ça me perturbe pas trop de voir ces nouvelles versions. Mais ce qu'on peut noter, c'est les deux trucs qui sont intéressants, c'est ZFS. Donc ZFS, ça vous permet de gérer vos disques de manière un petit peu différente. Et on va dire que c'est un file system moderne qui est vraiment super intéressant, et d'autant plus pour faire de la virtualisation, parce que vous allez pouvoir créer des volumes, les étendre à la volée, faire des snapshots dessus. Vous pouvez faire de la synchronisation entre machines de volumes, de snapshots, etc. Donc pour de la virtualisation, c'est vraiment génial. Et si vous voulez monter en gamme, vous pouvez héberger vos VM, donc la partie block storage, donc les disques, sur du Ceph. Donc Ceph, c'est quoi? C'est un block storage distribué. Donc en gros, pour vos VM, vous avez besoin d'un disque dur pour stocker les données. Soit vous pouvez les stocker en local sur un EXT4 classique, soit sur du ZFS qui peut être synchronisé avec d'autres machines. Mais dans ce cas-là, il va falloir arrêter la VM, la synchroniser, la relancer, etc. C'est pratique pour faire du disaster recovery, ZFS par exemple. Par contre, Ceph, ça va vous permettre de faire de la haute dispo, puisque votre block storage va pouvoir être disponible sur plusieurs machines en même temps. Alors, quand on dit plusieurs machines en même temps, c'est une très mauvaise idée de vouloir ouvrir le même fichier sur deux machines en même temps. Par contre, ça vous permet de faire des choses du type live migration. Donc, vous voulez vider un hyperviseur pour faire une maintenance dessus. Avec du Ceph, vous n'êtes plus obligé d'arrêter la VM, de transférer les fichiers, de redémarrer la VM, et ainsi de suite. Donc Ceph va vous permettre de faire tout ça. Alors, Ceph est utilisé depuis très longtemps dans Proxmox. La grosse nouveauté de cette version-là, c'est que sur votre hyperviseur, vous pouvez installer un cluster Ceph. Donc si vous avez 2, 3, 5 hyperviseurs, mais que vous n'avez pas les moyens de prendre un cluster dédié au stockage Ceph, vous pouvez utiliser vos hyperviseurs pour installer ce cluster Ceph. Ensuite, dans les nouvelles fonctionnalités, il y a aussi la synchronisation LDAP pour les utilisateurs et les groupes. Donc, c'est une bonne nouvelle parce que quand on commence à avoir des installations un petit peu sérieuses, on va vouloir faire une authentification utilisateur par utilisateur et de pouvoir révoquer les utilisateurs une bonne fois pour toutes. Vous avez une nouveauté aussi sur les ressources réseau, donc c'est type SDN, donc Software Defined Network. Donc, vous pouvez faire en sorte que toutes les ressources réseau que vous utilisez sont définies via une API. Donc, ça a été encore plus simplifié, je dirais, ce qui vous permet de créer vos bridges, vos interfaces réseau, les mettre dans des VLAN, toutes les règles de sécurité type firewall et ainsi de suite. Un autre truc super intéressant, c'est du mapping type PCI Express USB. Donc, alors ça va surtout vous intéresser si vous avez du hardware qui vous appartient ou si vous avez des périphériques un petit peu spéciaux dans vos machines. Donc, au hasard, vous avez des cartes NVIDIA et vous voulez pouvoir y accéder. Avec ce mapping PCI Express, vous pourrez y avoir accès. Si vous avez des dongles USB pour des logiciels un petit peu spéciaux, vous pourrez mapper l'USB directement dedans. Alors, j'ai pas tout compris, mais visiblement, ça permet aussi de simplifier la migration quand vous migrez votre VM d'un hyperviseur à un autre. Au moment où vous redémarrez votre VM, il va vous afficher des warnings s'il y a des mappings qui ne correspondent pas, là où avant il refusait de démarrer la VM et ainsi de suite. Un autre truc très intéressant pour la partie sécurité, c'est l'anti-brute force, puisque quand vous laissez votre API, l'interface de votre Proxmox ouvert sur Internet, il y a toujours un petit méchant pirate qui va venir essayer de récupérer vos credentials pour pouvoir déployer une VM, pour pouvoir miner du Bitcoin ou faire d'autres trucs pas très sympas. Et c'était une grosse faille. Donc, ils ont amélioré deux parties. C'est déjà quand vous essayez de faire du brute force sur un compte, il va verrouiller le compte. Mais si vous avez activé une authentification double facteur, ils vont rajouter le fait de bloquer le compte s'il y a plusieurs tentatives une fois que vous avez réussi à passer le login mot de passe. Donc, activer l'authentification double facteur dès que vous pouvez, c'est la meilleure protection que vous pourrez mettre. Et pour ceux qui installent les Proxmox eux-mêmes, ils ont rajouté un autre truc, c'est un installeur texte. Avant, tout se faisait forcément avec l'installeur graphique, ce qui n'était pas forcément pratique pour ceux qui avaient des cartes graphiques pas très bien supportées par l'installeur Debian. Et en général, quand on a un hyperviseur, avoir une carte graphique, c'est pas franchement la priorité. Donc, c'est une bonne nouvelle d'avoir cette partie-là. Et la dernière nouvelle, c'est que ils ont mis comme processeur par défaut de l'x86 en 64 bits en version 2 et surtout avec du support de l'AES. Donc, pour tous ceux qui font du chiffrement dans leur VM, je pense qu'ils vont pouvoir apprécier ça. Et il y a deux nouvelles qui sont un petit peu associées à ça, c'est Proxmox Backup Server qui passe en version 3. Alors vous allez retrouver à peu près les mêmes types de nouvelles qui vont être attachées sur la synchronisation LDAP et le fait de pouvoir mettre du Ceph. Et globalement, ça vous permet de sauvegarder toutes vos VM et ainsi de suite. Mais je crois que Christophe va pouvoir vous en raconter un petit peu plus. Et dans le même train des mises à jour, l'entreprise qui développe Proxmox, a aussi un produit qui vous permet de faire une passerelle pour les mails. Donc, ils l'ont passé en version 3. Alors, j'ai pas trop regardé la news parce que c'est un produit que j'utilise pas, mais si vous l'utilisez, regardez, les nouveautés doivent être à peu près aussi intéressantes. Voilà. Je sais pas si vous avez des réactions, Christophe. Tu l'utilises, toi?
Alors malheureusement, je vais pas pouvoir répondre, tu m'as filé la patate chaude, mais pour Proxmox Backup Server, j'ai pas encore lu la news. Nous, on l'utilise, puisque notre laboratoire est en Proxmox, puisqu'on a une machine physique dans nos locaux à Rennes. On l'utilise, mais du coup, très succinctement. On prévoit de l'utiliser un peu plus, en profondeur dans les années à venir. Pour des systèmes qui ne nécessitent pas forcément un provider cloud, puisque nous on utilise Calway pour certains de nos services, mais on a de l'infogérance et on imagine tout migrer sur du Proxmox. Justement avec cette version 8 et tout ce que tu nous as annoncé, c'est une bonne nouvelle pour nous. Et du coup j'en profite pour te demander si j'ai bien compris, est-ce que donc on peut faire de l'hyperconvergence et utiliser toutes les ressources de nos machines, c'est-à-dire le CPU, la RAM et le disque avec cette nouvelle version, et notamment Ceph.
Parce qu'avant, tu pouvais pas ?
Eh ben, avant, tu pouvais mettre un cluster Ceph, comme tu l'as dit, installé à côté, et donc tu profitais pas forcément bien du disque. En tout cas, c'est l'impression que j'avais, moi. Que c'était un peu... c'était moins facile de faire tout migrer facilement et d'utiliser toutes les ressources. En tout cas, moi, si j'avais à l'utiliser avant, j'aurais plutôt mis un agrégat Ceph à côté. Que sur le Proxmox, mais là, du coup, c'est tout facilité, c'est ça?
Alors, c'est ce que j'ai compris, mais je ne comprends pas totalement ta question, puisque moi, j'arrive toujours à utiliser toutes les ressources.
Eh bien, alors, c'est que je suis même mauvais, et, tout simplement, et que je n'ai pas réussi avant. Pas correctement.
Moi, j'ai quelques Proxmox en production et jusqu'à récemment, j'utilisais exclusivement du LXC. Alors, j'ai eu plein de problèmes de performance qui sont peut-être réglés avec cette nouvelle version de LXC. Mais je suis en train de migrer sur du KVM et ma grosse inquiétude, c'était de ne pas pouvoir faire de surbooking de ressources. Et en fait, même avec des versions assez anciennes, on peut surbooker les ressources sans trop de problèmes. Le CPU va être partagé entre les différentes VM, la mémoire aussi. Alors, il faut laisser un petit peu de place à l'hyperviseur, hein, parce que si on commence à killer l'hyperviseur, on va avoir quelques soucis. Et pour le disque, ça dépend du partitionnement que tu vas mettre, mais je fais toujours une partition qui est dédiée à la partie stockage des VM, et ça s'est toujours bien passé. Alors moi j'ai découvert Proxmox Backup Server, mais j'ai pas encore eu l'occasion de l'utiliser, puisque ce que je fais, c'est que j'utilise le système de backup des VM, donc il fait un export du fichier et après je fais un rsync sur mon serveur de backup. Mais a priori, Backup Server permet de faire style des snapshots régulièrement, donc c'est beaucoup plus léger pour les ressources. Et ce qui est encore plus intéressant, c'est que en cas de disaster, pour faire la partie recovery, c'est que vous dites mes backups sont là-bas et en fait, il va tout rapatrier en automatique et ça a l'air plutôt bien foutu. Après, pour la partie safe, le petit bémol que je mettrais, c'est que je crois que pour faire du live migration et des choses comme ça, il faut quand même payer la version Enterprise, parce que c'est encore une entreprise qui développe un produit en open source et ils ont un business model. Donc, c'est pour les entreprises un petit peu plus grosses qui veulent avoir... un hyperviseur pour professionnels, donc le live migration en fait partie, il faut payer une licence.
Et attends, encore une fois, c'est un peu cher. Live migration, c'est bien. Hein. C'est un peu cher, c'est combien, une licence Proxmox?
Je sais plus, mais à l'époque où j'avais regardé, c'était pas abordable pour l'entreprise où j'étais. Donc, et puis en plus, c'est toujours du pricing en fonction du CPU, de la mémoire, etc. Et voilà.
Et toi, René?
Je vais pas forcément rajouter grand chose. Je connais pas très très bien Proxmox, mais de ce que j'en connais, de ce que j'en ai vu, ça a l'air d'être une solution vraiment très sympa. Je sais que c'est fait par une boîte qui est en Allemagne. J'ai pas forcément plus à dire.
En fait, d'après mon expérience, Proxmox, pour moi, c'est vraiment la porte d'entrée pour créer un simili-cloud personnel. C'est plus facile à installer que OpenStack, par exemple, qui demande quand même des compétences assez élevées. Et puis OpenStack fait beaucoup de choses aussi que ne fait pas Proxmox. Mais Proxmox permet de faire beaucoup de choses déjà pour des petites équipes qui n'ont pas forcément de très très gros besoins. Et je crois qu'on atteint les limites de Proxmox, je ne sais pas quand on les atteint, mais nous, on ne les a pas atteints, pour notre cas d'usage en tout cas.
Mais c'est plus une solution de virtu.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Réalisation un peu comme le concurrent commercial, c'est vraiment VMware, quoi.
Exactement. C'est souvent comparé à VMware.
Oui, effectivement.
Non, je voulais juste dire qu'il y avait une alternative aussi qui est XCPNG, qui est donc, par contre, pas basée sur le même hyperviseur. On en a déjà parlé, plutôt basée sur Xen. et qui est supporté par une boîte française qui s'appelle Vates, qui est grenobloise.
Exactement, mais qui a l'air moins simple à installer, d'après ce que j'ai vu.
C'est un système pour les professionnels, donc c'est, même si c'est pas hyper simple à installer, si on n'arrive pas à l'installer, je pense que c'est pas forcément bon signe non plus. Il est peut-être temps de retourner voir un cloud provider. Proxmox, j'ai dû l'installer une ou deux fois pour jouer avec en local plutôt qu'avec mes serveurs de prod. Effectivement, je crois que c'est du clic clic clic. XPNG, j'ai pas encore eu le temps de l'essayer. C'est nos histoires de planning bien se charger, tout ça. Et après, sinon, je viens de comprendre ta question sur l'hyperconvergence, où en fait, ce que tu voudrais, c'est mutualiser les serveurs, enfin les ressources de tes trois serveurs pour pouvoir faire une grosse VM.
Oui, en fait, c'est l'idée de, quand tu as un pool Proxmox, de pouvoir en effet utiliser tous tes CPU, toute ta RAM et toutes tes disques. Alors pas forcément pour faire une grosse VM, mais pour mutualiser. Dans ton data center, dans ton simili data center.
Alors déjà, faire une VM sur plusieurs hosts, c'est toujours une très mauvaise idée. J'ai connu des boîtes qui faisaient ça, c'est très joli sur le papier, mais ça nécessite des ressources techniques et notamment réseau qui sont tellement pas abordables que ça coûte moins cher d'acheter des plus grosses machines et de les mettre en cluster. Après, c'est est-ce que ça gère bien le fait de dire « je veux une VM, mais là où tu veux, je m'en fous », ça, j'en ai aucune idée. Okay. Et je pense que ça fait partie des choses où, quand tu commences à avoir ces besoins-là, je pense qu'il est nécessaire de passer sur du cloud provider, parce que Proxmox, c'est quand tu as un ou deux serveurs, tu sais où tu veux mettre tes VM. Et quand tu commences à avoir un besoin de « je veux pouvoir provisionner mes VM sans me soucier de où elles sont et qu'elles soient toujours disponibles », je pense qu'il est temps de basculer sur un cloud provider. Et si tu en as vraiment les besoins sur une infrastructure, je pense qu'il vaut mieux déployer de l'OpenStack. Parce que alors c'est le marteau pilon pour écraser une mouche, hein, mais j'ai déployé de l'OpenStack, c'est faisable, ça prend du temps, mais ça va vous rendre service si vous avez un parc conséquent de machines physiques et que vous voulez déployer plein de VM avec une API et justement pas vous préoccuper de où est-ce que ça va. Parce que Proxmox, en gros, moi je l'utilise dans un seul cas, j'ai un serveur dédié, j'ai pas envie de me prendre la tête avec la partie hyperviseur. J'ai essayé de faire du KVM géré avec de la libvirt ou des choses comme ça, mais en fait, on est très vite limité. Là où Proxmox a maintenant un provider Terraform en plus, donc il n'y a plus à s'embêter, mais c'est une machine qui est isolée.
Salut, c'est le Christophe du futur, et avant de faire le montage, on s'est aperçu que j'avais oublié un message important lors de l'enregistrement justement de cet Actu DevOps. Donc je l'enregistre après coup pour t'en faire profiter. Alors, j'ai été contacté par CloudAlp. CloudAlp, c'est une conférence qui aura lieu à Lyon le 6 septembre. Et du coup, on a décidé d'être partenaire pour justement que moi je puisse te parler de cette conférence. Alors, pour que ce soit plus parlant, je vais te montrer mon écran parce que c'est plus simple. Alors, comme tu le vois, CloudAlp, ça a lieu le 6 septembre 2023 à l'INSA de Lyon. Et ça commence à 8h30, 9h, je crois. On n'a pas encore le programme, mais ça devrait être là. Et comme tu le vois, il y a déjà deux intervenants qui sont annoncés aujourd'hui. C'est Quentin Adam, le CEO de Clever Cloud, que je salue au passage, qui va faire la keynote d'ouverture. Et en keynote de clôture, on a Laurent de la Clergerie, qui est le CEO de LDLC. Donc comme tu le vois, ce sont deux personnes importantes dans le milieu de la tech qui vont venir nous parler de cloud. Alors, il y a aussi quelques sponsors, et nous, on est partenaires, on va faire des choses, et à ce sujet-là, on va essayer de faire des choses avec Duno, la chaîne YouTube Duno. Mais je t'en parle aussi parce que la billetterie est ouverte, ils attendent 200 personnes et que tu peux aller justement prendre ton billet. Mais en plus, ils font un geste pour notre communauté, donc c'est là que c'est vraiment important. Ils m'ont offert 5 billets puisque tu le vois, les billets ils sont entre 20 et 40 euros, c'est déjà pas cher, mais ils m'ont offert 5 billets. Donc pour tenter de gagner un de ces 5 billets, c'est très simple. Tu vas sur le message Twitter que j'ai posté milieu juillet, je sais pas encore à quel jour je vais le poster au moment où j'enregistre, mais la clôture du concours sera le 15 août. Pour participer au concours, c'est hyper simple. Tu prends ce tweet, tu t'abonnes évidemment au compte Twitter Mentor DevOps, qui est mon compte Twitter dédié aux compagnons de DevOps, et au compte Twitter de Claude _ Alp. Tu retweets le tweet en question, le tweet du concours, et surtout, tu commentes le concours avec le hashtag DevOpsOnFire. Et une fois que tu as fait ces trois choses-là, qui sont bien évidemment écrites dans le tweet du concours, t'attends le 15 août, et le 15 août, je ferai un tirage au sort parmi tous les gens qui ont participé, et je contacterai les 5 gagnants pour leur envoyer le coupon qu'ils auront gagné, et donc la place qu'ils auront gagnée. J'y serai physiquement le 6 septembre, justement à Claude Alp. Donc si tu veux qu'on discute à ce moment-là, bah, tu pourras venir me voir si je ne suis pas trop occupé à un moment, puisque j'aurai très certainement des choses à faire, puisque Lyon, c'est à côté de chez moi. Si tu ne le sais pas, j'habite Saint-Étienne, et c'est pas très loin, du coup j'irai faire un tour toute la journée là-bas. Donc, tu l'auras compris, tu réserves ton 6 septembre, tu participes au concours, et on se voit très bientôt, et tu peux reprendre ton épisode. Ok ? Eh ben, écoute, voilà. Je propose qu'on passe à la suite. Et pour la suite, c'est René qui va nous parler d'un logiciel que j'adore. Enfin, en tout cas, d'un autre produit de cette série de logiciels. Puisque tu vas nous parler de Ansible Lightspeed.
Oui. Alors, en fait, il y a le produit Ansible Automation Platform 2.4 qui est sorti. Et il y a, on va dire, je ne sais pas si on peut appeler ça comme ça, une extension qui s'appelle Lightspeed. Donc rapidement, juste pour donner un petit peu les idées de ce qu'il y a de nouveau un petit peu dans ce produit Ansible. Il y a beaucoup de choses qui sont en technologie preview, et notamment, il commence à avoir une notion de event-driven Ansible. Donc pour pouvoir réagir sur... Je ne sais pas exactement comment ça marche, mais voilà, pouvoir réagir sur des événements et traiter donc voilà, en fonction des événements qu'on reçoit de différents, providers, de déclencher un certain nombre d'actions automatisées. Donc ça, c'est quelque chose qui vient dans cette nouvelle suite. Il y a eu l'introduction aussi probablement pas le bon terme, mais de modules un peu certifiés qui permettent pour pas mal de types de choses un peu courantes d'avoir des choses stables et éprouvées. Voilà, et un support de ARM aussi. On peut faire tourner Ansible et tout l'applicatif qui tourne autour sur plateforme ARM. Et donc pour parler un peu plus précisément de Lightspeed, que je n'ai pas essayé, mais voilà, il y a eu c'est un travail avec IBM en particulier, et une plateforme qui s'appelle Watson Code. Donc c'est de l'IA. Donc pareil, c'est aussi en technologie preview. Et donc l'idée, c'est d'avoir une IA qui va aider à la conception des rôles ou des playbooks, etc. Dans Ansible. Et alors, je n'ai pas essayé, mais on a quelqu'un qu'on connaît et dont on parle souvent dans le podcast, qui est Stéphane Robert, qui lui a commencé à un petit peu expérimenter la solution. Donc ça se matérialise sous la forme d'un plugin VS Code pour le moment, qu'il faut installer, une partie un peu de configuration pour que ça aille discuter avec probablement l'API de côté Watson, donc un serveur d'IA hébergé chez IBM. Et à première vue, de ses premiers retours, semble assez, assez bon. Ça a l'air de pas mal fonctionner, notamment parce que dans le moteur d'IA, il y a eu l'introduction d'un peu toutes les best practices de ce qu'il faut faire avec Ansible. Et donc, ça a l'air de sortir des enfin, ce qui est généré par le moteur au niveau du YAML Ansible et a l'air vraiment d'assez bonne qualité. Donc voilà, c'est à suivre, mais c'est un produit qui a l'air assez intéressant. Il reste des questions ouvertes sur comment ça va scaler en fonction du nombre d'utilisateurs, etc. Mais voilà, ça a l'air assez chouette. Et bah, je vous laisse la main si vous voulez un petit peu, si vous connaissez ou si j'ai pu oublier des choses, n'hésitez pas à compléter.
Nicolas, tu veux commencer ?
Ben, je peux commencer par troller. C'est parce que Lightspeed, sur le coup, je me suis dit ils ont enfin réussi à faire en sorte que Ansible soit rapide, mais j'ai l'impression que c'est plus pour écrire du code plus rapidement. Mais c'est marrant parce que dans le... Bon, hors troll, hein, on est d'accord que c'est pour générer du code dans VS Code. Hein. D'accord. Parce que dans la présentation de l'article que tu as envoyé, je vois aussi beaucoup de captures d'écran d'un portail d'administration. Et ça me faisait penser à Ansible Tower. C'est que les deux sont intégrés l'un à l'autre.
Non, je pense que tu as cliqué sur le premier article et pas le second, qui parle de Ansible Platform Automation.
Voilà, c'est vraiment... Il y a Platform Automation qui est, on va dire, un peu une nouvelle version d'Ansible avec plein de nouveautés, et Lightspeed qui est, je sais pas, un add-on entre guillemets ou un produit différent, en complémentaire, qui vient amener ce côté IA pour effectivement écrire du code plus rapidement. À noter quand même que dans Automation, ils ont quand même l'air d'avoir un peu travaillé justement sur la rapidité d'exécution. Il y a l'air d'avoir un engine qui a été amélioré. Mais à creuser, oui. Sachant que oui, effectivement, je suis pas sûr que ça reste un des soucis Ansible, c'est que c'est pas extrêmement rapide.
Non, mais autant pour moi. Mais du coup, la partie automation est intéressante. A priori, il rajoute aussi tout ce qui est event driven, donc pour pouvoir réagir à des événements dans vos infrastructures pour pouvoir déclencher des actions Ansible. Et ça, c'est un des trucs qu'il y a dans sa stack qui est assez intéressante. Alors, ceux qui en font depuis longtemps vous diront peut-être que c'est pas forcément hyper stable, mais par contre ça existe depuis très longtemps et moi j'ai utilisé pour certains trucs, c'est plutôt pratique et ça permet notamment de faire de la remédiation quand vous avez des services qui tombent. Donc votre monitoring vous dit le service est tombé, vous pouvez mettre votre Ansible Tower qui va surveiller ça et ça va redéclencher le playbook pour redéployer le service. Si c'est un service qui est tombé, bah, il va simplement redémarrer le service. Si un développeur, un admin sys qui a fait une erreur, fait un rm-rf sur des trucs, bah, ça va le repositionner automatiquement. Et puis voilà. Donc c'est cool que ça bouge. C'est bien que Red Hat ait racheté ce produit et continue à le faire vivre. Parce que on a déjà parlé de Red Hat, donc en espérant qu'ils ne vont pas fermer les sources d'Ansible. Mais d'un autre côté, Salsa qui a été racheté par VMware et j'ai la désagréable impression qu'ils sont en train de plomber le projet. Mais bon, bref, à suivre.
Bah écoute, tu passeras sur Ansible. De mon côté, mes avis sont toujours les mêmes, comme c'est à base d'IA, c'est. Comment a été entraînée cette IA? Est-ce qu'elle peut ressortir du code sous licence? Et est-ce qu'on le sait? A priori, j'ai pas l'impression qu'on sache s'il y a du code sous licence. En tout cas, c'est pas explicitement dit. Faudrait voir les conditions générales d'utilisation. Et surtout, j'ai cru comprendre que pour l'instant, c'est annoncé comme gratuit pendant la preview. Ça veut dire que c'est potentiellement un futur service payant, ce qui se comprendrait, hein. Puisque ça fait appel à des serveurs et que ça tourne pas en local sur nos machines. Moi, je me pose des questions aussi et de plus en plus écologiques sur toutes ces aides d'écriture de code à base d'IA. Est-ce que ça surconsomme pas par rapport au temps de cerveau qu'on y passerait? Enfin, je veux dire, je me pose de plus en plus de questions sur ça, sur l'utilisation des ressources Et en effet, ça nous fait gagner du temps, mais est-ce que ça vaut vraiment le coup ? Ça, je ne sais pas, je ne saurais pas dire.
Ouais, mais finalement, tu utilises ton PC moins longtemps, tu fais tourner ta CI moins souvent parce que tu écris directement le bon code beaucoup plus rapidement. Et donc, tu éteins ta machine plus rapidement pour pouvoir aller faire du sport. Donc, tu contribues à améliorer la planète.
Ou entretenir ton jardin bio.
Voilà. Bien sûr, c'était un troll.
Ah, ok. Merci, Nicolas, pour ce troll.
Non, l'IA, à quel point ça va sauver l'humanité ou nous pousser au fond du précipice, ça, on verra bien, mais... Je pense qu'il ne faut pas non plus être totalement réfractaire et il faut continuer à surveiller ces trucs-là. Ça va faire partie des choses où si tu es réfractaire, tu ne vas pas rester compétitif longtemps parce que d'autres vont continuer à l'utiliser. Ou alors, en ne l'utilisant pas, tu vas rester compétitif parce que tu ne vas pas écrire des trucs qui vont être plein de bugs parce que l'IA a un petit peu... Et j'ai perdu le nom. Enfin bon, elle a été un petit peu trop euphorique et elle a inventé des trucs qui n'existent pas, qui fonctionnent pas. Donc, intéressant, faut regarder quoi.
Ouais, alors pour moi, c'est un peu comme tout. L'IA, c'est un outil et comme tous les outils, en fait, c'est l'usage qu'on va en faire qui est important. Néanmoins, quand tu utilises un marteau, t'as pas de surprise. Quand tu utilises du code généré par une IA, t'es potentiellement soumis, comme je le disais et comme on l'a déjà traité, à du code qui est soumis à une licence. Et c'est ça, en fait, le vrai problème. Pour moi, tous ces outils généraient du code et qui te disent, il y a une partie de ce code, potentiellement il vient de là, potentiellement il vient de là, potentiellement c'est telle licence. Toi, qui est responsable de ton code, tu dis, OK, je vais l'utiliser, OK, la licence, elle est compatible avec mon produit. Tu vois, c'est tous ces trucs-là. Je suis d'accord avec toi sur le fait qu'il faut, potentiellement, on va vers une plus grande utilisation de l'IA, mais il faut l'utiliser correctement, selon moi. Il faut vraiment l'encadrer correctement.
Ouais, mais au final, quand tu écris de l'Ansible, qu'est-ce que tu fais ? C'est tu vas d'abord lire dans la doc et tu vas t'inspirer de la doc, qui est GPL, ou une licence libre équivalente. Est-ce que tes playbooks le sont aussi, alors que finalement, tu as repiqué du code ? Tu vas sur des problématiques un petit peu spécifiques, tu vas aller chercher du Stack Overflow sur des blogs. Est-ce que tu respectes bien la licence ? Donc,
ouais, mais quand tu fais ça, toi, tu le sais que tu as pris un bout de code sous licence et tu le fais à dessein. Tu te dis, OK, je prends le risque. Quand tu utilises une IA que tu ne sais pas, tu ne sais pas. C'est ça que je veux dire. C'est vraiment ça, le truc. Oui, vas-y, René.
Bah, pour répondre à ça, je ne sais plus où je l'ai vu, mais je crois que justement dans Ansible Lightspeed, il te donne quelle est la source qui a servi à... Ils ont travaillé sur le sujet, en fait, de savoir qui a produit la snippet, en fait, je ne sais pas comment dire ça, mais de code. Et donc, à première vue, tu peux savoir qui est l'auteur et éventuellement... J'imagine potentiellement la licence associée. Il y a eu du travail dans ce sens-là. Je l'ai lu quelque part, je ne sais plus si c'est dans l'article que j'ai donné ou pas, mais voilà. Il y a même une prise en compte de ce problème-là.
Ça, c'est une bonne nouvelle, René. Si tu as la source, moi, je la veux bien pour la mettre dans les notes. Ouais, je voudrais juste rajouter un dernier truc. Moi, j'ai une petite crainte toute légère. C'est que on a traité justement dans Ansible. Attends, le podcast, je sais plus comment il s'appelait, mais c'était soit tout redévelopper soi-même, soit utiliser des briques libres. Moi, je suis vous l'avez compris, je suis assez utilisateur de rôles et de collections libres, quitte à les faire évoluer. Je me pose la question de est-ce que ça va justement pas devenir tellement facile de faire marcher son IA qu'on ne va plus utiliser des codes communs et donc participer à ces codes communs et donc on va avoir une implémentation un peu différente à chaque fois de pas mal de choses et donc du fait redévelopper à nouveau la roue à chaque fois. Moi c'est une question que je me pose.
Ouais, alors les snippets peuvent être traduits comme extraits ou fragments de code. Je sais pas comment je le traduirais moi, mais en fait ça te suffit pas pour écrire un rôle complet parce que en réalité derrière un rôle et tu as épluché toute la doc de ton produit, tu as traité les cas de Red Hat, Debian-like, tu as tu as plein de paramètres qui vont venir être paramétrables parce que suivant ce que tu as comme mémoire, combien tu as d'utilisateurs qui vont se connecter, etc. Tu as plein de trucs comme ça qui viennent avec le rôle. Et en fait, c'est pas le fait d'écrire ce que tu vas mettre dans un playbook, un rôle, c'est l'expérience que tu as eue dans différents contextes, des gens qui t'ont dit « Ah bah tiens, moi je voudrais l'utiliser dans ce cas-là, est-ce que tu peux rajouter ce paramètre ?» et ainsi de suite. C'est, on parlait de Jeff Gerling qui fait des rôles qui sont exceptionnels. Quand tu regardes ces rôles, tu apprends énormément et tu te rends compte qu'ils sont utilisés par plein de monde et qui permettent de prendre en compte plein de cas d'utilisation. On va pas refaire l'épisode qu'on avait fait à l'époque, mais c'est là où la différence entre un bon rôle qui est bien écrit, où finalement tu vas pouvoir coller à plein de cas d'usage, à un truc qui est tellement bateau que ça ira plus vite pour toi de l'écrire. Bon, bah effectivement, avec un petit peu d'IA, tu iras un petit peu plus vite pour l'écrire et puis c'est tout. Mais je ne pense pas que ça soit écrire le playbook, je ne pense pas que ça soit l'écriture des différentes actions qui soit si lente que ça.
Je sais pas, on sait pas comment vont évoluer les IA à l'avenir. C'est aussi, je me projette dans l'avenir.
Mais du coup, je pense qu'en conclusion sur ce sujet-là, on pourrait dire que l'IA, c'est comme un marteau. Hein. Si tu fermes les yeux, ça peut faire mal aux doigts.
Merci, Nicolas, pour cette conclusion. Je la prends et je l'apprécie. Bah, justement, vu que tu avais la parole, on va te laisser la parole et tu vas nous parler de Docker, puisqu'il y a une nouvelle news autour de Docker.
Ouais, et c'est même une super nouvelle parce que Docker a annoncé qu'il rachetait une entreprise qui s'appelle Mutagen. Mutagen, c'est quoi ? C'est globalement, c'est un produit qui est un plugin Docker qui vous permet de synchroniser votre file system avec votre target Docker, on va dire, et de faire la même chose pour les ressources réseau. Et alors moi, je l'ai découvert il y a quelques mois, je l'avais essayé parce que c'était une des solutions pour résoudre le problème de tu as un Mac M1, tu es très content, ta machine va très vite, mais tous tes conteneurs Docker sont hyper lents parce que il y a la transpilation ARM, AMD64, etc. Et en fait, Mutagen était une des solutions. Et alors, j'ai pas creusé jusqu'à tester ça, mais j'ai l'impression que quand ça ne tourne plus sur le poste du développeur, on peut avoir un serveur Docker distant, on peut développer le code en local sur sa machine, et le code va être automatiquement synchronisé dans le conteneur Docker. Donc pour les développeurs qui vont relancer régulièrement leur conteneur pour voir des mises à jour, ça simplifie énormément le workflow, le flow du développement. Et c'est cool que Docker continue à investir côté développement, puisqu'on s'était posé la question au moment où ils ont splitté l'activité entreprise, où ils ont revendu ça à je ne sais plus quelle entreprise, et où la partie desktop, finalement, ils voulaient se recentrer là-dessus. Voilà, je pense que c'est, on voit bien l'orientation qu'ils sont en train de prendre, c'est, on fait le focus sur les développeurs, et on fait tout pour leur simplifier la vie, et je pense que Mutagen fait partie des outils qui peuvent simplifier la vie des développeurs. René, je ne sais pas si toi, tu as déjà essayé, ou si tu connaissais ou pas.
Non, je connaissais pas. Donc, à tester.
Moi non plus, j'avoue, je connaissais pas. J'ai vu la news passer parce que comme je m'intéresse à Docker, je me suis dit que ce serait intéressant de la traiter. Et puis merci de l'avoir traité. Ça a l'air assez intéressant. Je pense que c'est un truc à tester parce que je vois pas, pour l'instant, je vois pas trop les cas d'usage, mais j'en imagine certains, comme tu l'as dit, avec le développement sur une machine distante et ce genre de choses. Mais je ne sais pas ce que ça va donner. En tout cas, c'est une belle news. Et toi, Nicolas, t'en penses quoi finalement de ça?
Bah que c'est super cool. Et justement, on parlait d'écologie tout à l'heure et de pouvoir faire tourner les ressources ailleurs. Moi, le problème que j'ai, c'est que en tant que DevOps, finalement, ma machine, je m'en sers principalement pour faire du SSH. Mais il y a des fois, j'ai besoin de lancer des conteneurs Docker, des choses comme ça, et pour développer en local. Et je me retrouve à avoir une machine. Alors, pour éviter d'avoir en racheter une tous les deux ans, j'ai demandé à mon entreprise de m'en acheter une avec 64 Go de RAM. Mais bon, c'est hors de prix. Écologiquement, ça fait plus de RAM à fabriquer, etc. Et je me dis qu'une alternative à ça, c'est des outils comme Mutagen, où finalement, je développe sur ma machine en local, et dès que je sauvegarde mon fichier, il est envoyé sur le conteneur Docker qui est sur un serveur dans le cloud, quel que soit le provider, et quand je rafraîchis ma page, j'ai l'impression que tout est en local, mais finalement, tout est en distant. Et que ça soit en distant dans un serveur, dans mon entreprise, dans on-premise, sur une machine qui est sous mon bureau, peu importe. Et finalement, on va peut-être pouvoir réussir à transformer nos PC portables en entre guillemets Minitel, dans le sens où c'est une machine avec du CPU, un petit peu de mémoire, beaucoup de mémoire pour Slack, mais bon, c'est encore une autre histoire, mais avec des ressources raisonnables. Et finalement, quand j'ai besoin de plus de ressources, j'ai une machine distante sur laquelle je peux consommer plus de ressources, mais c'est une machine que je peux me permettre d'éteindre quand j'en ai pas besoin.
Je vais être totalement d'accord avec toi, parce que c'est ma vision de l'avenir, ce genre de truc, et je pense qu'à l'avenir, on va de plus en plus développer dans le cloud et moins sur nos machines, et on aura des machines plus légères. En tout cas, c'est ce vers quoi moi j'ai envie d'investir notre R&D avec notre usine logicielle.
En plus, on aura des casques de VR Apple avec des claviers virtuels juste au bout des doigts, et du coup, on n'aura même plus besoin de se trimballer des machines. On va pouvoir prendre le métro, le train et conduire en voiture avec le casque vissé sur la tête toute la journée.
Bon, tu l'auras compris, Nicolas aime bien troller. du coup, je te propose qu'on passe à un autre sujet, et je te rappelle aussi que ce podcast est en licence libre, puisqu'il est en CC BY-SA, tu peux le découper, le refaire, tu peux utiliser des bouts si tu veux, n'importe où, n'importe comment. Ce qu'il faut, c'est citer la source, et puis en plus, accessoirement, si tu peux nous envoyer un petit message pour nous dire « Hey, j'ai réutilisé une partie de votre podcast », c'est vachement bien. Donc, je t'encourage à le faire, et surtout à le partager sur les réseaux sociaux, à tes amis, à tes collègues, surtout, qui ne connaissent pas encore Radio DevOps ni Actu DevOps, ça leur fera connaître ce super podcast, puisque je suis sûr que tout le monde devrait connaître ce super podcast. Alors, on va passer à la section des outils, celle que tout le monde attend, et comme on a parlé de mutagène plus tôt et d'environnement de développement en ligne, René, tu vas nous parler de DevPod, et si tu n'en avais pas parlé, j'en aurais parlé.
Oui, alors c'est ça fait écho à ce que vous disiez juste avant. DevPod, c'est à première vue, alors je ne l'ai pas testé, mais une alternative libre à CodeSpaces ou Gitpod, donc qui sont des solutions propriétaires pour avoir un environnement de développement dans le cloud et en ligne. Donc du coup, il y a un conteneur qui va stocker un petit peu tout l'environnement, l'éditeur de code, les sources sur lesquelles on travaille, etc. Et donc ça permet de travailler quasiment comme en local, mais alors que la solution est distante. Et voilà, c'est des solutions assez agréables, mais qui, voilà, CodeSpaces ou Gitpod reste propriétaire, et à première vue, DevPod permet une alternative libre que j'imagine on peut aussi hoster soi-même si on est créé du service autour. Voilà, c'est développé en grande partie en Go, et ça a l'air, de ce que j'en ai vu, ça a l'air assez sympa. Et toi, donc, Christophe, tu connaissais cette solution?
Ouais, alors j'ai dit non quand t'as dit hoster toi-même, parce qu'il y a quand même une petite différence entre CodeSpaces, Gitpod et DevPod. Alors Gitpod, il faut savoir que avant c'était libre, ils ont fait un petit move. Je crois, je sais pas s'ils continuent à dire qu'ils sont libres, mais en tout cas l'installation de Gitpod n'est plus maintenue et n'est plus libre, ce qui fait que du coup tu peux pas installer Gitpod sur tes machines. DevPod, c'est une autre philosophie. C'est un client que tu as sur ta machine qui va aller provisionner ton environnement de développement en ligne. C'est d'ailleurs, ils le présentent dans leur site, c'est client only. Et tu peux t'interfacer avec plein de types de clients, et notamment Scaleway, puisque tu peux aller créer tes environnements de développement en ligne avec Scaleway. Donc ça veut dire que tu as soit une interface graphique, soit un client en ligne de commande qui te permet de créer ton environnement de développement en ligne, et après tu y accèdes depuis Internet via ton navigateur. Donc ça, c'est une belle promesse. Et quand je l'ai vu, je me suis dit, bah super, je vais pouvoir avoir une nouvelle brique libre sur Frogit, parce que Gitpod, j'avais fait un trait dessus. Mais malheureusement, non, ce ne sera pas encore le cas, puisque DevPod, c'est plutôt pour les clients. Ce qui est bien, parce que ça permet aussi aux entreprises de gérer leurs propres environnements de développement sur leurs propres infrastructures, ou en tout cas sur leurs projets, leur cloud provider ou en local, parce que je crois que DevPod te fournit aussi des événements, des environnements locaux sur ta machine. J'ai pas regardé encore.
Mais il y a l'air d'avoir quand même pas mal de providers pour les différents clouds. Donc potentiellement, tu peux aussi le faire en privé. Si j'imagine qu'il doit avoir un provider OpenStack ou quelque chose comme ça. À creuser.
Ouais, alors il y a une petite liste de providers, faudra aller voir sur leur site. Nicolas, qu'est-ce que tu en penses, toi?
Un de mes clients m'avait demandé ce que je pensais de Gitpod, pardon, et j'ai découvert ça, et sur le principe, ça paraît super bien. Par contre, j'ai trouvé que c'était relativement cher par rapport à certains usages, mais bon, pourquoi pas. Par contre, je pense que ça fait partie de notre avenir, parce que ça résout plein de problèmes, surtout pour des entreprises qui ont des setups assez particuliers, avec des README longs comme le bras pour setup ne serait-ce que l'environnement de développement. Et là, c'est vraiment bien foutu, parce que en trois clics, on est prêt à démarrer sur le projet pour développer sur le produit. Et a priori en gardant son environnement de développement favori, et ça c'est vraiment important. Moi je suis pas hyper fan des trucs qui tournent dans le navigateur, mais bon, c'est de toute façon, je pense que dans quelques années on n'aura plus trop le choix. Peut-être que l'UX se améliorera et du coup on n'aura plus ces problèmes là. Et en tout cas c'est super bien qu'il y ait une alternative open source qui arrive, et je suis impatient de voir ça arriver sur Frogit, parce que je pense que ça fait partie des trucs qui vont simplifier la vie des développeurs et aider les entreprises à avancer.
Oui, alors je précise un petit truc, c'est quand même basé sur les dev containers, ce qui permet en fait dans le dépôt d'héberger un fichier qui s'appelle devcontainer.json, qui décrit en fait l'environnement de développement. Là où Gitpod c'est à YAML, on y a perdu quand même quelque chose, puisque là on a un JSON, mais JSON versus YAML, voilà. Tu peux, Nicolas, si tu veux, ouvrir ton environnement dans ton VS Code local. C'est-à-dire que tu peux popper soit ton environnement dans le cloud et le connecter avec ton VS Code local, soit dans un conteneur sur ta machine et dans ton VS Code local, etc., etc., etc. Il y a pas mal de possibilités. Ça reste, je dis VS Code, mais il n'y a pas que VS Code, il y a plein d'éditeurs, en fait. Et du coup, ça a l'air d'être une sorte de boîte à outils glue magique entre plein de trucs. Il faut vraiment tester, je pense.
Encore un des nombreux trucs à tester cette semaine.
Exactement. Bon, moi, je vais te parler d'un petit outil. Je vais revenir au basique, puisque je ne vais pas parler du dernier outil à la mode. Non, je vais te parler de Dig. Dig, tu sais, c'est ce petit utilitaire qui est inclus dans certains paquets. Alors, je vais pas te donner le nom des paquets, parce que ça change en fonction des distributions. Mais en tout cas, Dig, ça permet de faire quoi? C'est l'outil magique qui te permet d'aller interroger les serveurs DNS et donc de faire des recherches DNS. Tu fais Dig, compagnon-devops.fr, et tu vas avoir dans ton terminal le retour de le DNS, il renvoie vers ça, puis vers ça, puis vers ça, puis vers ça, et t'as la liste de toutes les redirections DNS par lesquelles passent ton nom de domaine. Et ça, c'est vachement bien. Et tu peux même faire des recherches inverses en donnant des IP, etc. Mais là, je te laisserai aller voir l'article que je mets en commentaire. Je voulais parler de Digg parce que, bon, on en a parlé avec Nicolas et René, mais moi, à chaque fois que j'en parle à des novices, ils connaissent pas forcément. Et du coup, quand on a des problèmes réseau, souvent, c'est lié à des résolutions DNS. Et pour savoir ce qui se passe, bah, Digg, c'est un outil quand même essentiel. Et je vois que Nicolas se marre. J'espère que c'est ce que je raconte qui fait qu'il se marre. En tout cas, Nicolas, tu vas nous dire pourquoi tu te marres.
Eh ben, je me marre parce que je suivais un gars sur Twitter dont le handle était « c'est toujours un problème DNS ». Parce que effectivement, dans nos infrastructures, on s'appuie tellement sur le DNS que ça devient indispensable. Et je compte pas le nombre de fois où j'aide des clients ou des collègues à débugger la partie DNS. Et effectivement, on en parlait un tout petit peu avant, j'ai commencé avec NS Lookup comme beaucoup. J'ai sauté l'étape Digg parce qu'à l'époque, c'était un petit peu obscur pour moi. Et du coup, j'ai utilisé Host pendant des années. Et en fait, maintenant, de plus en plus, je repasse à Digg parce que c'est devenu la boîte à outils vraiment indispensable. Parce que c'est la seule commande que je connais qui ne bride pas l'utilisation, y compris pour des trucs très avancés. Et j'ai regardé l'article qui va être en lien, et je vous invite à regarder très sérieusement cet article-là, parce que ça va vous sauver dans pas mal de cas. Parce que je me suis retrouvé avec des trucs tellement compliqués où j'avais des DNS qui étaient désynchronisés, j'avais des DNS qui étaient déclarés côté root server, qui n'étaient pas les mêmes que les entrées, enfin que les serveurs qui étaient réellement interrogés. Et le fait d'avoir Digg, ça m'a permis de bien mettre le doigt sur le fait que, regardez, quand je demande au root server, j'ai ces serveurs-là. Quand je demande au WIS, j'ai ces serveurs-là, et quand j'interroge tous les serveurs un à un, j'ai des réponses différentes. Vous allez pouvoir détecter des désynchrones zones parce que vous pouvez interroger le SOA de la zone. Donc en gros, c'est le numéro de série pour simplifier. Et quand vous faites du mail, vous aurez besoin des informations, des marques, SPF, machin, etc. Et en fait, tout ça, vous l'aurez avec Digg. Donc, Digg, ouais. Et si vous ne connaissez pas, c'est le premier truc que vous allez regarder après avoir fini d'écouter l'épisode.
Ouais, et puis je précise avant de passer la parole à René que Digg, on peut même lui spécifier un serveur de nom particulier parce que si on n'arrive pas à avoir une résolution DNS, on peut dire à Digg, bah attends, interroge ce serveur de nom particulier, on voit s'il y a une différence par rapport à ce que nous répond Digg, et donc on peut estimer qu'il y a un problème de configuration sur notre machine. Oui, Nicolas.
Et je vais même dire plus, on peut spécifier le port du DNS que l'on veut interroger, parce que moi, dans mes infrastructures, j'ai du NOT, j'ai du Unbound et du l'autre qui fait le cache local, et en fait, j'ai trois ports différents, et pour debug, c'est le seul que j'ai trouvé qui permettait d'interroger une adresse IP spécifique, mais surtout un port. Et ça, j'ai trouvé aucun autre qui permettait de le faire. Donc, ouais, c'est Digg, c'est vraiment génial. Et surtout, on peut choisir vraiment ce qu'on veut en sortie, machin, etc. Est-ce qu'on veut tous les détails, juste la réponse? Franchement, c'est top. Et du coup, René?
Bah, je peux qu'abonder dans votre sens. C'est un super outil. Après, le revers un petit peu de la médaille. S'il faut un petit défaut, c'est que bah, il est très puissant, donc il faut apprendre à l'utiliser. Il y a beaucoup de commandes, etc. C'est pas forcément l'outil le plus trivial à utiliser. Et parfois la lecture de la sortie au début est un peu difficile parfois à interpréter ce qui répond. Donc il faut prendre c'est un outil qu'il faut apprendre. Il faut apprendre à s'en servir. Donc moi c'est vrai que j'ai une tendance à utiliser peut-être plus en vieux de la vieille, des fois, un petit coup d'NS Lookup si je veux juste voir une résolution, voir ce que ça donne. Mais après, oui, dès qu'il faut creuser un peu plus, Digg, ouais, c'est sûr que c'est plus efficace.
J'aurais tendance à dire que pour bien maîtriser Digg, il faut prendre sa pioche et creuser. Du coup, René, tu vas nous parler d'un autre outil.
Oui, dernier petit outil que j'ai trouvé sympa. Comme d'habitude, je manie pas mal de JSON, etc. Et c'est un petit outil qui s'appelle Curl Converter. Et donc ça amène sur une page assez sympa qui permet de qui donne des infos à la fois pour par exemple à partir de Firefox. Alors c'est pour Firefox, je pense qu'il y a, je suis pas sûr qu'il y ait Chrome, mais de récupérer par exemple pour quand une requête est faite, une requête HTTP ou HTTPS est faite, récupérer l'équivalent en curl. Et ensuite l'outil Curl Converter permet aussi à partir d'une commande curl de donner le code équivalent dans différents langages, que ce soit en Python, en Rust, en voilà, il y a un certain nombre de langages. Et donc c'est vraiment super pratique et j'ai trouvé la page bien foutue. Voilà, petit outil sympa, je pense à avoir dans ces liens bookmarkés parce que ça rend de fier service.
Eh ben moi je ne connaissais pas, j'irai le tester. Nicolas, un avis là-dessus?
Ben je suis en train de le rajouter dans mes bookmarks parce qu'effectivement il a l'air vraiment très très pratique. J'utilise pas mal l'extension Firefox Developer pour récupérer les commandes curl et j'utilise un équivalent payant à Postman qui permet justement de, avec un clic droit, on peut récupérer un curl ou n'importe quel langage et ça fait partie des trucs quand vous manipulez des API très régulièrement, ça devient très rapidement indispensable d'avoir des trucs comme ça. J'ai regardé rapidement les quelques tests que j'ai fait dans les différents langages, ça va vous faire gagner du temps, enfin, c'est à mettre dans les bookmarks. Merci René.
Eh bien écoute Nicolas, tu viens de rajouter deux outils, alors je te laisse le premier.
Ouais, parce que comme à chaque fois, c'est en vous écoutant parler d'outils que je me dis « Ah mais oui, c'est vrai !» En fait, c'est un outil dont Damir avait parlé dans l'épisode où on parlait de nos configurations logicielles respectives. Et il nous avait parlé de multi-account container dans Firefox. Et j'avais dit que je l'essayerais. Et ben, non seulement je l'ai essayé, mais je l'ai adopté et j'utilise plus que ça. Parce que j'ai plein de comptes OVH, j'ai plein de consoles Horizon avec plein de comptes différents. En fait, maintenant, j'ai plus besoin de switcher d'un navigateur à un autre, de me déconnecter, de me reconnecter. Et c'est vraiment génial. Vous avez des couleurs par conteneur, vous pouvez tout séparer, c'est top. Et il a son petit frère, Container Proxy, qui permet de mettre un proxy spécifiquement dans un groupe de conteneurs. Et alors ça, c'est encore mieux, parce qu'avant, j'avais Foxy Proxy qui me permettait de basculer d'un container, d'un proxy à un autre. Et du coup, je démarrais un navigateur spécifique pour avoir ce truc-là, machin, etc. Et en fait, là, j'ai même plus besoin. J'ouvre un nouvel onglet, il est automatiquement sur ce proxy-là. Donc, j'ai plus qu'un seul navigateur pour tout. C'est génial.
Eh ben, merci Nicolas. Alors non, très cher auditeur, tu n'as pas raté un épisode de Radio DevOps puisque l'épisode dont vient te parler de Nicolas est prévu pour sortir le 2 novembre. Donc on a de l'avance sur les Radio DevOps, donc il sortira après cette Actu DevOps puisque les Actu DevOps doivent sortir le mois où ils sont enregistrés. On n'a pas le choix. Par contre, les Radio DevOps, on a un peu d'avance et comme j'alterne avec des interviews, ça nous permet. Donc tu sauras qu'on parlera de nos setups bientôt. Chez nous, on utilise Firefox Multi-Account Containers et c'est vrai que c'est vraiment très bien. Je l'utilise dans mes tutos parce que ça permet d'avoir plusieurs contextes et quand tu fais de la pédagogie ou que tu veux tester des trucs, c'est vachement bien d'avoir plusieurs contextes plutôt que faut que je démarre en fenêtre de navigation privée, mais tu perds tout en fait, c'est nul. Alors que là, t'as vraiment plusieurs identités dans ton navigateur. Moi, j'adore ce truc. René, que penses-tu de ces petits trucs? Est-ce que tu les utilises?
Non, je les utilise pas. C'est je pense très très pratique. Moi, j'utilise. Il y a pas mal de petites extensions comme ça à Firefox qui sont parfois pas mal. Notamment, j'en utilise une là. C'est plutôt les multi-tabs. Donc, ça permet de faire par exemple des groupes de tabs sur différents sujets. ça évite d'avoir, je sais pas, 200 tables ouvertes, pas forcément classées. Là, ça permet d'un peu plus classer les choses. Donc oui, il y a des fois, il y a des extensions Firefox qui valent le coup de, voilà, de gratter un petit peu parce qu'il y a des trucs vraiment sympas.
Cool, merci. Alors, tu l'auras compris, nous sommes des passionnés et tu peux venir discuter avec nous dans la communauté des compagnons du DevOps. Le lien est en description, mais tu peux aller sur compagnons-devops.fr pour t'inscrire et tu nous rejoindras, puis tu pourras discuter avec nous si tu le fais pas déjà, parce que il y a de nombreuses personnes qui discutent déjà sur les épisodes ou sur d'autres émissions. Encore une fois, merci à tous les deux de votre participation à cet épisode. Et moi, je vous laisse à tous les deux le mot de la fin. Et pour ne pas surprendre René, je vais commencer par Nicolas.
Ah zut, du coup, j'ai pas rien prévu. On a déjà parlé beaucoup d'open source, de contributions et notamment financières. C'est si vous aimez tant l'open source, essayez de décider vos entreprises à y consacrer un budget. Parce que c'est la seule solution de financer l'open source. Et si vous n'avez pas les moyens, on l'a dit, vous avez de la doc, vous avez de la promotion du produit, vous avez faire des issues quand vous avez un bug, et ainsi de suite. Bref, contribuez.
Et René, quel est ton mot de la fin ?
Bah, mon mot de la fin, c'est... Je pense que malheureusement, je n'ai pas forcément bien rendu... bien mis en valeur l'article sur Linux parce que je voulais pas trop en dire je voulais pas le spoiler. Donc je m'en excuse, c'est peut-être pas très vendeur, mais voilà, je vous encourage vraiment à aller le consulter parce que il est vraiment, enfin c'est vraiment sympa, c'est une belle histoire, c'est pas très long. Donc voilà, c'était mon petit ajout. Et puis sinon, pour faire dans le classique, j'espère que cet épisode vous aura intéressé et je vous donne rendez-vous à un prochain épisode.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.